RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset.
C'est RMC, c'est le week-end des experts. Merci d'être là, un bon réveil. Et puis soyez les bienvenus si vous venez peut-être de nous rejoindre. Jusqu'à 10h, le week-end des experts s'intéresse au chauffage électrique avec Christian Pesset à mes côtés et nos invités.
Oui, on va parler chauffage électrique parce que vous êtes un très très grand nombre en France à être équipé de chauffage électrique.
La preuve, c'est le nombre de questions qu'on reçoit par mail et voilà, au 32-16.
Là, c'est l'avalanche. Donc, on a une belle brochette d'invités. On a Jean Bergouignou avec nous, qui est ancien président de la SNCF. Ça, c'est pas pour le chauffage, mais ancien directeur général d'EDF et surtout, aujourd'hui, président de l'association Équilibre des Énergies. Il nous dira à quoi sert cette association, quel est son objet. On aura Jean-Michel Guérin tout à l'heure en ligne. Il est directeur général de PAP et il a fait des déclarations sur ce sujet du chauffage électrique. Disons, il n'est pas très chaud, on va dire, pour le chauffage électrique.
Voilà, PAP particulier.
Voilà, c'est le directeur général de particulier. Frédéric Delettre, directeur commercial de chez Sauter, donc du groupe Atlantique, bien connu, des chauffages électriques français, bien de chez nous. Et puis Claude Descombes, qui est directeur général de la association Promotelec, on va dire, association sur les bonnes pratiques d'utilisation de l'énergie, du chauffage électrique entre autres, et puis il nous parlera aussi sécurité tout à l'heure.
Formidable.
Voilà. Quelle équipe nous avons.
Casting de choix. Voilà. Et vous pouvez donc poser toutes vos questions 32-16 ou bien maison@rmc.fr pour le mail. Je vous rappelle encore une chose. Il y a toujours cette station météo à gagner. Elle est à gagner par tirage au sort tout simplement. Vous nous envoyez météo par SMS au 732-16. Météo 732-16. Et puis, sachez qu'il y a aussi, ça c'est un autre jeu, mais qui est bien sympa, cette boîte à outils. Là, il suffit de nous envoyer toujours au 732-16. Le mot maison, tout simplement. On aura l'occasion d'en reparler.
Tout à fait. Jean Bergouignou, bonjour. Président de l'association Équilibre des Énergies. Ça serait plutôt Déséquilibre des Énergies, parce que je crois que vous... Bon, disons que vous aimez bien l'électricité quand même, non?
Nous aimons bien l'électricité, mais nous aimons bien aussi les autres énergies.
D'accord.
Et équilibre, ça veut ce que ça veut dire.
Alors, quelle est votre constatation, justement, en matière d'utilisation de l'électricité pour se chauffer aujourd'hui? Parce que on discutait des chiffres lorsque les uns les autres on s'est appelés. Moi, j'avais 8 millions de foyers. On m'a dit que c'était peut-être 11 millions. Il y en a qui m'ont dit même 12 millions.
Ah oui, c'est la surenchère.
C'est quoi, la réalité?
Alors, la réalité, dans les résidences principales, c'est 8 millions de foyers.
D'accord.
Soit, grosso modo, 30% des résidences principales qui sont... tout électrique, j'insiste là-dessus,
oui.
Parce que, logiquement, quand vous avez le chauffage électrique, vous chauffez l'eau aussi avec l'électricité.
C'est vrai.
Très souvent, vous avez la cuisson électrique,
oui.
Plus toutes les applications spécifiques de l'électricité. Donc, il s'agit d'une maison ou d'un appartement tout électrique.
D'accord, donc le chiffre de 8 millions est assez crédible, on va dire.
Est assez crédible. Alors, par contre, il y a beaucoup de résidences secondaires.
Oui.
Qui utilisent l'électricité comme unique source d'énergie.
Voilà. Mais alors, est-ce que...
À ce moment-là, ça gonfle le chiffre aux environs 10 millions.
Bien sûr. Est-ce que le tout électrique, justement, des années, on va dire, des années 70-80, où toutes les maisons étaient pratiquement équipées de... avec une isolation précaire, étaient toutes équipées de convecteurs électriques parce que l'énergie était pas chère, est-ce que ça n'a pas été une grosse erreur? Et est-ce qu'aujourd'hui, ça ne vous met pas en présence d'un parc avec une quantité de grille-pains, comme on les appelle vulgairement, qui mérite remplacement, et là ça va faire très plaisir évidemment à monsieur Delettre de chez Sauter.
Oui, alors ces maisons, disons au début du chauffage électrique, effectivement ne présentaient pas toutes les caractéristiques qu'on est capable de faire maintenant. Et en particulier, la première chose qu'il faut songer à faire, c'est d'abord isoler mieux.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous m'avez entendu.
Priorité absolue à l'isolation, notamment isolation des combles lorsque ça n'est pas fait.
Oui.
Ensuite, remplacement des anciens convecteurs grille-pain à régulation mécanique par des choses modernes. Et l'un des mérites du chauffage électrique, c'est d'avoir fait faire beaucoup de progrès aux gens qui fabriquent les appareils. Et on a aujourd'hui des appareils extrêmement performants. Changer les radiateurs, ça n'est pas une opération très coûteuse. 3000 euros TTC en ordre de grandeur.
Oui.
Et ça permet d'économiser facilement 30% sur le chauffage.
D'accord. Alors on a en ligne Jean-Michel Guérin, qui est directeur général de PAP. Bonjour monsieur Guérin.
Bonjour.
Alors il y a quelques semaines, vous avez presque l'Assemblée pousser un coup de gueule justement devant cette situation et vous étiez a priori plutôt favorable, vous, à d'autres énergies. Quelle est votre position? Quel est votre constat en plus à travers votre support particulier à particulier?
Bien, c'est surtout sur les maisons neuves qu'on peut penser à d'autres énergies. Alors il est vrai aujourd'hui que l'installation d'un chauffage électrique, c'est finalement l'installation qui coûte la moins chère, mais sur une maison neuve, autant faire l'effort tout de suite de penser à d'autres énergies, parce que malgré tout, la consommation, c'est une des consommations les plus chères, pour éviter justement les erreurs de ces années 80. Alors aujourd'hui, les maisons qui sont équipées, les maisons anciennes en chauffage électrique, on le disait, elles ont généralement un défaut d'isolation. Simplement refaire une isolation complète sur une maison de 125 mètres carrés, une maison moyenne on va dire, ça coûte entre 15 et 20 000 euros et donc on a pour 15 ans ou pour 20 ans avant de voir son retour sur investissement. Donc si on n'a pas un effort de l'État pour aider tous ces gens à isoler leur maison avec peut-être des prêts à taux zéro étalés sur 15 ans ou sur 20 ans, bien il y a peu de gens qui vont en faire l'effort parce qu'ils n'en ont pas les moyens et qu'ils ne vont pas voir de toute façon l'économie se rentabiliser avant une quinzaine ou une vingtaine d'années.
Bien sûr. Jean Vergugnou, c'est quand même un argument réel, ça. C'est-à-dire que vous avez dit vous-même que ça ne coûtait pas très cher de remplacer ces radiateurs électriques, mais est-ce qu'on va pas se retrouver dans une situation où les gens vont commencer par changer leur radiateur parce que ça va leur coûter 3000 euros pour un appartement ou une maison, et puis que bah, du coup, ils vont pas faire d'efforts sur l'isolation?
Ah bah c'est absolument indispensable de faire un effort sur l'isolation. Bon, cela étant, lorsque l'on est aujourd'hui chauffé à l'électricité, l'opération doit être isolation plus remplacement des convecteurs vétustes.
D'accord.
Changer d'énergie n'aurait aucun sens. Si par exemple vous vouliez refaire une installation au gaz dans une installation électrique, ça vous coûterait 18 000 euros d'investissement en moyenne pour payer plus cher.
Oui.
À la fin du compte, ce qui est complètement idiot. Là, il n'y a même plus de temps de retour.
RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset.
RMC 9h20, c'est le week-end des experts, merci d'être là. On évoque ce matin jusqu'à 10h le chauffage électrique avec Christian Pesset et nos invités. Et je vous propose, messieurs, tout de suite, d'accueillir Raoul qui nous attend au 32-16. Bonjour Raoul.
Bonjour.
Bienvenue Raoul, on vous écoute.
Bonjour Raoul.
Ben voilà, je voulais vous poser la question dans un studio de 31 mètres carrés à Montpellier. Un radiateur électrique de 1500 watts, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est la technologie. Hein. Et d'autre part, 17 degrés à peu près, en le laissant entre le maximum et au degré et à la moitié.
D'accord.
Donc il y a 17 degrés, il y a un petit radiateur dans la salle de bain. C'est à peu près la même chose. Hein. Donc ils sont inefficaces. Et là, ma question, c'était est-ce que je peux... Bon, moi, je voulais acheter un petit radiateur d'appoint, ou est-ce que je peux exiger de mon propriétaire qu'il fasse le nécessaire?
Alors, Frédéric Delettre, directeur commercial de chez Sauter, quel est votre diagnostic, là, en tant qu'équipementier, si j'ose dire?
Alors, la première réponse que j'apporterai à Raoul, c'est certainement le dimensionnement de son installation.
Oui.
Pour 30 mètres carrés, on peut imaginer, en fonction de la date de construction de son habitat, qu'il y ait 80 mètres carrés ou 80
ans,
watts.
C'est ça.
9 ans,
Raoul.
Oui.
D'accord.
Oui, oui.
On peut imaginer qu'il y ait 80 watts par mètre carré ou voire 100 watts par mètre carré.
Oui.
Et par conséquent, 1500 watts pour 30 mètres carrés, on peut imaginer que ce soit un peu faible. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, si l'habitat a 9 ans, on peut imaginer là aussi que l'isolation soit assez bonne.
Oui, ça devrait être.
Parce que ce sont des, ça fait partie de constructions récentes.
Voilà. Donc, au-delà même de la qualité de l'appareil, je crois que Raoul, vous avez une difficulté de dimensionnement.
Oui.
Et
ouais,
de réponse à votre besoin de chauffage.
De puissance, quoi.
De puissance.
Mais alors, Claude Descombes, directeur général de Promotelec, bonjour, on vous a pas encore entendu, donc
bonjour.
Ça va venir maintenant. La question sous-jacente, c'est je suis locataire, j'ai un chauffage électrique alors qui est soit inefficace, soit très dispendieux en matière de consommation et d'efficacité, donc puisque ça va de pair. Est-ce que je peux faire quelque chose par rapport à mon propriétaire? Quels sont les moyens d'action?
Je veux dire, bien que ce soit, je veux dire, les moyens d'action qu'on peut aller vers son propriétaire, c'est lui faire constater déjà que la température peut pas monter et lui poser la question, comme vient de le dire le monsieur de Sauter, concernant le bon dimensionnement. Deuxième solution à laquelle on pense, et ce que disait Raoul tout à l'heure, c'est je vais mettre un chauffage d'appoint.
Oui.
Un chauffage d'appoint, ça veut dire que je vais solliciter une prise de courant un peu plus que ce qu'il faut.
On va y mettre un radiateur à l'huile, par exemple.
Oui, et donc ça veut dire qu'il faut aussi s'assurer que l'installation pourra supporter une puissance appelée longtemps sur une prise de courant qui n'est pas faite pour ça aussi.
En clair, une prise de courant.
Un chauffage d'appoint, une prise de courant qu'on a au mur n'est pas faite pour un chauffage d'appoint, c'est ça ?
Une prise de courant que l'on met au mur est faite pour brancher un appareil qui consomme pas d'une grosse puissance pendant longtemps.
D'accord. Oui.
Donc, par exemple, si je prends un exemple, un chauffe-eau électrique, il ne viendrait pas à l'idée de le raccorder sur une prise de courant. On lui fait un circuit d'alimentation spécifique.
D'accord.
C'est ce que on fait également pour un radiateur électrique. Donc, si vous venez rajouter un appareil permanent sur une prise de courant, vous n'utilisez pas votre installation comme elle se doit.
Donc, 1000 watts ou 1500 watts pendant 2 heures, ça va.
Tout à fait. Une heure. Ça correspond à une heure ou deux de repassage.
Voilà.
Pour avoir des comparaisons, si vous voulez.
Mais alors, quel est le risque? Si par exemple, on laisse allumer un chauffage d'appoint tout le temps sur une prise qui n'est pas faite pour ça, c'est quoi le risque?
Le risque, c'est que
les plombs sautent.
Si les plombs sautent.
Non mais il y a encore avant guerre là, hein. avant guerre de 14 même.
Non, ça disjoncte.
Ça disjoncte, s'il vous plaît.
C'est mieux.
Ça veut dire que déjà, si vous dites que ça disjoncte, ça veut dire que c'est une installation qui est récente, qui est bien conçue. C'est-à-dire que quand on appelle trop de courant, il y a un dispositif de protection qui le coupe. Oui. Par contre, donc là, on minimise les risques. Par contre, s'il n'y avait pas ce type de disjoncteur en tête de ligne, ça veut dire que l'installation chauffe, la prise chauffe, et ça peut générer des incendies. Quand je dis ça peut générer, il y a quand même un tiers des incendies qui sont
dus à ce genre de problème.
Et on constate effectivement qu'en période de froid, janvier-février, il y a une recrudescence d'incendies.
Parce que on sollicite trop certaines prises de courant, c'est ça ?
On sollicite trop son installation électrique alors qu'elle n'est pas dimensionnée pour ça.
Messieurs, on revient dans un instant, 9h26, la météo des infos, et puis on accueillera entre autres Joseph, qui habite une maison qui est isolée, chauffée au gaz sur 150 m², et Joseph se demande si, vu l'augmentation du gaz, il ne devrait pas passer son installation à l'électrique.
Voilà, là on a Jean Bergougnou qui déjà est dans les starting blocks.
Ah oui, il se frotte les mains. Mais va-t-il arriver à convaincre Joseph?
Mais Jean-Michel Guérin, en revanche, est dans l'embuscade.
Et Christian est là pour arbitrer. Tout ça s'annonce passionnant, et bien sûr.
Et aussi, évidemment, Frédéric Delettre pour se taire.
Attention Christian, une petite question flash.
Oui, mon cher François.
Ça va chauffer.
Allons-y.
C'est la question de Stéphane que nous avons reçue. Peut-on poser, Christian, du papier peint dans une cuisine? Et si oui, quelles précautions faut-il prendre?
Alors, c'est la question inverse de celle de Jean tout à l'heure qui
tout
voulait l'enlever.
Eh oui.
Eh ben, voyez. Hein,
vous savez, on n'est jamais content.
Hein. Absolument. Alors, il y a des spécificités dans la cuisine, c'est que l'atmosphère y est souvent chaude et humide. Il y a donc de la vapeur. Il y a donc aussi une atmosphère qui est plus ou moins chargée de graisse. Donc, ce qui suppose de nettoyer, de lessiver périodiquement les murs. Et tout ça, c'est pas très compatible avec le chauffage, mais avec le papier peint. Le papier peint classique, on l'imagine bien. Alors, il y a bien des papiers peints qui sont dits lessivables, mais c'est quand même pas le top. Il faut un papier vraiment lessivable, c'est-à-dire le papier vinyle dont on parlait tout à l'heure. Alors, il y a là des précautions de pose, car évidemment, la colle papier peint classique perd ses qualités d'adhérence, et puis elle peut aussi moisir lorsqu'il y a une atmosphère chaude et humide. Alors, la principale des précautions qu'on pourra recommander, c'est d'utiliser d'abord un papier peint vinyle de belle qualité, et puis ensuite d'utiliser une colle spécifique, parce que c'est souvent de là que vient le problème. Il faut utiliser une colle papier peint fongicide, c'est-à-dire qui contient des agents qui vont tuer les petits champignons, les moisissures qui peuvent se mettre donc entre le papier peint et le mur. Alors, ceci étant, pour une cuisine, moi je pense qu'on ne peut que recommander d'en rester à la laque traditionnelle, c'est-à-dire la peinture véritablement lisse, favorable donc à un lessivage périodique, à la propreté et à une parfaite hygiène.
Le 32-16 est à votre disposition, maison@rmc.fr pour poser vos questions.
RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset.
Le week-end des experts, jusqu'à 10h, Christian Pesset est à mes côtés, on parle de chauffage électrique. Christian, il est temps maintenant de repartir avec nos invités et puis nos auditeurs qui ont énormément de questions
oui, beaucoup,
à poser.
Beaucoup de questions. Hein.
On accueille Joseph
on
tout de suite.
Joseph.
Joseph, bonjour.
Oui, bonjour messieurs.
On vous
bonjour,
écoute Joseph.
Joseph.
Écoutez, j'habite dans les Hautes-Pyrénées. J'aurais voulu savoir si changer de chauffage passé au tout électrique était bon, parce qu'actuellement je suis chauffé dans une maison de ville par le gaz de ville. Et comme le gaz de ville, le prix du gaz de ville augmente constamment, j'aurais voulu savoir si ça valait la peine de passer à tout électrique.
Alors, Jean Bergougnou, vous allez plutôt y être favorable, mais qu'est-ce qui nous garantit que l'électricité, ça va pas, si j'ose dire, flamber aussi dans les années qui vont venir?
Oui, d'abord, l'origine de la question, c'est clair, le prix du gaz a doublé entre 2000 et aujourd'hui.
Oui, mais on dit que c'est quand même encore le moins cher, alors
le prix
est-ce
de l'électricité,
que c'est vrai?
Alors non, ça c'est faux. Bon. Ça c'est faux. Il faut raisonner sur une maison électrique comparée à une maison au gaz. Et faire les comptes, en tenant compte de tout. La maison au gaz aura deux abonnements, on peut pas se passer d'électricité, il faudra payer les kilowattheures électriques, les kilowattheures gaz, et puis il faudra entretenir la chaudière, ramener la cheminée. Tout ceci fait que, à surface égale, à date de construction identique, l'électricité reviendra 15% moins cher que le gaz. Ça,
oui,
c'est une réalité.
Parce que le gaz, vous le dites, son prix a doublé, mais l'électricité a augmenté aussi, non?
L'électricité a augmenté à peu près comme l'inflation, entre 2000 et aujourd'hui.
Oui,
évidemment,
mais...
ça fait quand même des 17%, mais
si, si dans 10 ans ou dans 15 ans, on a la moitié des centrales nucléaires qui sont arrêtées, est-ce que l'électricité va pas suivre le même chemin?
Alors, le prix de l'électricité est appelé à augmenter, c'est exact.
Mais comme
prix
toute
du gaz, également, malheureusement. Et donc, pour répondre à cette question de façon très précise, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les gens qui font une rénovation profonde d'une maison ancienne, c'est-à-dire qui font de l'isolation, des doubles vitrages, enfin, qui mettent tout bien d'aplomb du point de vue de la performance du bâti, eh bien, beaucoup décident de supprimer l'installation gaz et de passer à l'électricité.
Concrètement, pour Joseph, alors, vous estimez une économie de 15% s'il passe à l'électrique.
15% sur la facture.
D'accord.
Mais à condition qu'il soit bien isolé. Hein,
alors,
ça, c'est absolument
indispensable.
On revient
toujours à ça, Joseph. Hein, vous avez compris, il faut que votre maison soit bien isolée.
Mais je suis très bien isolé. C'est une isolation récente d'une vieille maison qui a été reconditionnée il y a 2-3 ans.
Après, il y a aussi un paramètre à prendre en compte, c'est le coût des travaux de la transformation du gaz à l'électrique.
Je crois qu'à ce moment-là, il faut que vous fassiez votre bilan personnel.
Voilà.
Que vous regardiez ce que ça va vous coûter en plus, parce que c'est vrai que l'installation électrique va être à repenser. Comme le disait Claude Descombes, vous n'allez pas brancher des convecteurs, des radiateurs, fussent-ils extrêmement modernes, sur des prises destiné à alimenter le
garage. Il y a peut-être aussi l'installation électrique.
Donc, il faut revoir
à refaire
l'installation électrique.
Non, mais c'est-à-dire que si Descombes sera d'accord.
Faites votre bilan en coût. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas les radiateurs qui vont vous ruiner, mais tenez compte des différents éléments, de la place que vous gagnez, du confort,
bien
etc.
Bien sûr, Frédéric Delettre, le coût d'une installation belle qualité de 150 mètres carrés, en deux mots, pour qu'on puisse passer à un autre auditeur.
En nombre d'appareils, vous allez mettre 7, 8, voire 10 appareils et ça va vous coûter entre 6 et 8 000 euros en fonction des appareils gagnés.
D'accord.
Choisis.
Quand là, vous parlez que des appareils, pas de l'installation électrique.
Oui, si l'installation est à refaire, évidemment.
Évidemment.
Mais si elle n'est pas à refaire, ça serait
super. Après, voilà, le calcul, c'est de se dire, voilà, d'un côté, je vais économiser 15% d'électricité, en tout cas de facture par
c'est
an.
C'est comme toujours.
Et je vais avoir 8 000 euros à dépenser.
Le retour sur investissement.
Et voilà, c'est ça.
Tout à fait. En tenant compte du confort et de la façon dont vous concevez votre vie dans ce logement.
9h38, on poursuit avec les questions. Vous êtes très nombreux à nous appeler. Hein. Christian, on est connecté sur nos petites tablettes là et on voit effectivement beaucoup de questions qui arrivent. On continue avec Jean-Claude qui est là. Bonjour Jean-Claude.
Oui, bonjour.
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 Bienvenue Jean-Claude, on vous écoute.
Oui, très simplement, en ce qui me concerne, j'ai aujourd'hui un pavillon tout électrique de 160 mètres carrés avec des radiateurs rayonnant, pour pas citer la marque Campa. J'aimerais savoir si avec des technologies plus élaborées, je peux gagner au niveau consommation.
Alors ça, c'est une question typiquement pour Frédéric Delettre. Alors, je sais que vous êtes embêté, vous, parce que vous, chez Sauter, vous faites à peu près tout. Alors vous allez dire, ça c'est pas mal, ça c'est bien aussi. Bon, très franchement, quelle est la technologie que vous conseilleriez?
Alors ce que je peux vous dire déjà, c'est que les appareils ont fait un saut qualitatif formidable en termes de confort. On est passé de ce que vous appelez les grippins des années 70 à des appareils à chaleur douce et inertie qui procurent un confort qui est très important. Dans votre maison, Jean-Claude, effectivement, si vous mettez des appareils de nouvelle génération, vous allez pouvoir réaliser des économies de l'ordre de 30% à 40%.
Non mais ça vaut mieux ça, parce que si on ne faisait pas d'économies en dépensant plus cher. Mais c'est quoi parce que une nouvelle technologie, c'est quoi selon vous?
Alors concrètement, vous allez
Est-ce
pouvoir
qu'on
mettre
du convecteur électronique, par exemple, si on veut pas dépenser beaucoup, donc avec une régulation, ou est-ce qu'on passe au caloporteur, au corps de chauffe, qu'est-ce que vous proposez?
Alors simplement, nous avons adoré les convecteurs dans les années 70, ça a permis d'autonomiser en termes de chauffage un certain nombre de foyers français. Aujourd'hui, cette technologie a été dépassée par la chaleur douce, l'inertie. Si votre maison, Jean-Claude, est bien isolée, par exemple, si c'est une construction récente, je vous conseillerais d'aller vers la chaleur douce, parce que ces appareils...
Non, attendez, c'est du marketing, chaleur douce, ça dit quoi?
Alors, la chaleur douce, concrètement, c'est une technologie qui va vous permettre...
C'est le contraire de la chaleur dure, voilà. En fait.
Ouais. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle chaleur douce?
Alors la chaleur douce, ce sont des technologies qui vont permettre une montée en température assez rapide, oui. Et qui vont permettre d'amortir éventuellement les apports gratuits ou les évolutions de la température dans la maison dans la journée.
Donc alors entre caloporteur, parce que là vous êtes écartelé, entre caloporteur et cœur de chauffe par exemple avec un cœur en fonte, quelle différence? Comment vous arrivez à conseiller entre ces deux? Là je vous écartèle là littéralement.
Non, vous posez une bonne question. Il y a plusieurs technologies qui permettent de répondre à un certain nombre de besoins en fonction de l'isolation d'une maison. On ira plutôt vers des technologies qui ont une réactivité dans des maisons
moins bien isolées.
Très bien isolées.
Ou très bien.
Et des technologies plutôt à inertie dans des maisons peu isolées, de façon à amortir les déperditions du bâtiment.
Donc caloporteur, si on veut
s'échauffer.
C'est l'inertie.
Le caloporteur, c'est l'inertie. En revanche, si vous allez vers de la fonte plus film qui permet d'avoir de la réactivité, là vous pourrez très bien l'installer. Vous aurez un très 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 grand confort dans une maison bien isolée.
D'accord. Claude Descombes, directeur général de Promotelec.
Oui, donc on a bien vu quel était le choix des radiateurs qu'il fallait mettre dans une maison, mais je crois qu'il faut pas oublier, il ne faut pas oublier aussi tout ce qui touche au pilotage et qui vous accompagne dans votre mode de vie. En fait, vous êtes capable de piloter votre chauffage, quand vous n'êtes pas là, vous le baissez de 3 ou 4 degrés. Quand vous partez de plus de 3 heures, par exemple, c'est un gain de 10 à 15% sur votre chauffage. De même, quand vous baissez d'un degré de température dans une pièce, c'est un gain de 7% sur la facture. Donc je crois qu'on oublie souvent. Et le fait de piloter, d'avoir des scénarios d'utilisation de son logement, c'est certainement un investissement.
En fait, c'est une programmation, quoi. C'est
tout à
une
fait.
Programmation et puis aussi une réaction. J'ai vu que dans le groupe Atlantique, je sais pas si ça existe chez Sauter, mais il y a même des radiateurs qui se coupent si on ouvre la fenêtre ou qui se mettent fonctionnement quand on entre dans la pièce ou qui se coupent quand on n'y est plus.
Alors effectivement, les fonctions intelligentes aujourd'hui vont vous permettre d'amortir une ouverture de fenêtre.
C'est l'avancée dont parlait Jean Vergugneau tout à l'heure.
La détection d'ouverture de fenêtre. Des économies, du confort, la programmation, des économies, du confort, également la détection de présence ou d'absence en dehors des plages de programmation prévues, et bientôt, c'est aujourd'hui, c'est le pilotage intelligent, un appareil qui est capable d'apprendre votre mode de vie,
non, un chien.
Qui est capable de regarder la manière dont vous vivez et de s'adapter à vos besoins.
Et il dit bonjour quand je rentre, non?
Pas encore, vous ne pouvez pas lui parler encore, vous ne pouvez pas encore lui demander.
Bonjour
mais
chaleureux.
J'imagine qu'on pourra lui donner des ordres vocaux bientôt.
Mais imaginez-vous un appareil qui soit capable demain d'apprendre votre vie et vous fournir le confort dont vous avez besoin à n'importe quel moment. Et même dans des moments où vous n'avez pas prévu d'être à la maison, il détecte votre présence et par conséquent s'adapte et fait en sorte que vous soyez en confort total.
Ou le mettre en route par exemple au travail alors qu'on sait qu'on va rentrer à la maison via des applis, smartphones, etc. Ça commence à arriver. Juste, tout à l'heure on parlait des chauffages d'appoint qu'on peut brancher sur des prises, on va dire traditionnelles. Il y a un auditeur qui visiblement est un spécialiste qui nous dit, il s'appelle Michel, je rappelle que la norme est de 6 ampères au millimètre carré, donc une prise de courant réglementaire câblée en 2,5 millimètres carrés peut accepter 15 kW max. Donc on peut brancher sans problème un radiateur de 1000 ou 1500 watts à condition que la ligne qui dessert cette prise ne soit pas utilisée par d'autres appareils.
Ah oui,
donc visiblement, on peut monter jusqu'à 1500 watts.
Oui, c'est à peu près ce qu'on a dit tout
voilà,
à l'heure.
Hein. D'accord.
RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset.
C'est RMC 9h47, le week-end des experts. On évoque le chauffage électrique avec Christian Pesset et nos invités. Et priorité, bien sûr, à vos questions ou témoignages. Christian, je vous propose tout de suite d'accueillir Bernard, qui nous a appelé au 3216. Bonjour Bernard.
Bonjour Bernard.
Bonjour.
On vous écoute.
C'était juste un témoignage pour dire, voilà, moi j'ai une maison, c'est un ancien bâtiment, une ancienne grange, on va dire, et qu'on a gardé les quatre murs, et puis on a fabriqué, on a construit une maison neuve dedans. Donc ça c'était en 85, et j'avais pris l'option de plafond rayonnant, donc c'est des films chauffants, un peu comme dans les vitres arrière des voitures, qu'on met au plafond, et qui vont chauffer toute la pièce, toutes les pièces, une par une, puisqu'on a en fait un thermostat par pièce.
Oui.
Et du coup, même quand on allume la cheminée, par exemple, le thermostat du salon où il y a la cheminée va s'éteindre tout seul, va gérer lui-même le chauffage.
Alors effectivement,
On a absolument aucun problème de consommation parce qu'on a une consommation très faible, avec une répartition de la chaleur qui est très agréable, qui est partout. Le carrelage est plus chaud que je dirais que l'air, pratiquement.
Oui.
Alors que c'est chauffé au plafond, voilà.
Ouais, merci pour ce témoignage.
Qu'est-ce que vous en pensez, Christian, vous, personnellement?
Moi, j'en pense plutôt du bien dans la mesure où ça présente aussi l'avantage, comme tout système, soit de plancher, soit de plafond, même de mur rayonnant, puisque ça existe aujourd'hui. Ça présente d'abord comme avantage de ne pas prendre de place sur la pièce du tout. Assez diffuse, effectivement. Sauf qu'on n'est que sur le rayonnement. Qu'est-ce que vous en pensez, Claude Descombes?
Bien, je veux dire, comme le dit ce monsieur, donc c'est une régulation relativement facile à mettre en œuvre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le rayonnement, c'est l'air chaud qui est en mouvement et qui monte. Alors qu'on le chauffe par le plancher, qu'on le chauffe par le mur ou qu'on le chauffe par le plafond, ça n'a aucune espèce d'importance. Et je crois que le témoignage le prouve. Bon.
Mais ça suppose une rénovation lourde ou bien du neuf, parce que effectivement, c'est pas tous les jours qu'on va mettre des panneaux rayonnants avec ce que ça veut dire, c'est-à-dire un doublage. Mais c'est une solution peu répandue en France, il faut bien le dire, pour l'instant.
Oui. Il faut se poser la question, par exemple, si je dois refaire mon plancher. Donc, se pose la question, est-ce que ça serait pas utile de mettre un plancher rayonnant, par exemple?
Oui.
Pourquoi pas?
Bon, là, le plancher rayonnant, j'en ai un dans mes bureaux. Je trouve que c'est très efficace. Le seul problème, c'est l'inertie. C'est que avant que ça... par exemple, aujourd'hui, je suis sûr que si je vais y aller tout à l'heure cet après-midi dans mon bureau, il va faire beaucoup trop chaud parce que la réactivité à l'évolution extérieure n'est pas rapide.
D'accord. Et puis, dès que vous le mettez en route, j'imagine qu'il faut un certain temps pour que ça commence à chauffer.
Il faut pratiquement pas y toucher.
Il s'agit d'un plancher rayonnant d'ancienne génération, si je peux dire, à inertie, qui était fait pour fonctionner la nuit. Aujourd'hui, on fait des planchers rayonnants
qui sont plus réactifs.
Oui,
d'accord.
Et vous pouvez toujours le compléter par un émetteur mural électrique.
Ah oui, voilà, bien sûr.
Bien sûr, monsieur bien technologie, sûr. Monsieur de chez Sauter est là.
Ni monsieur Sauter.
Michel est avec nous au 3216. Bonjour Michel.
Bonjour Michel. Je suis ravi de passer à votre antenne.
Nous aussi, on est ravis de vous entendre.
Oui.
On vous écoute.
Je voulais... Là, j'ai été contactée par l'EDF et je suis un peu vigilante.
Vous avez raison.
Je ne crois pas aux choses gratuites.
Pourquoi? Parce qu'on vous a contacté pour faire quoi?
Pour me dire qu'on me demandait de faire un bilan énergétique de ma maison.
D'accord, et de vous le faire gratuitement. Alors,
gratuitement.
On va poser la question à Jean Bergougnou, ancien directeur général d'EDF. Donc, j'imagine que vous connaissez bien cela. D'abord, est-ce que c'est toujours EDF? Deuxièmement, pourquoi EDF offrirait des bilans énergétiques gratuits?
Bien, EDF a évidemment intérêt à avoir des clients satisfaits. Et des clients satisfaits sont ceux qui maîtrisent leurs factures et qui ne disent pas l'électricité c'est une catastrophe,
bien
c'est cher, parce qu'ils ont une installation inadéquate, une maison mal isolée, etc. Donc le bilan, oui, c'est absolument indispensable. Cela étant, il faut être absolument assuré que celui qui fait le bilan offre toute garantie d'objectivité, voilà. Et va faire une étude sérieuse.
Mais est-ce que ce sont des agents d'EDF qui viennent faire cela gratuitement, ou est-ce que ce sont des entreprises qui prennent le faux-nez d'EDF pour venir ensuite vous refourguer une installation au gaz?
Il faut se méfier des faux-nez. Voilà, c'est incontestable. Ouais. C'est incontestable. Alors qu'EDF veuille le faire, ça c'est
donc certain, il faut vraiment faire attention.
Mais il faut vraiment faire très attention. D'accord. Alors cela étant, c'est vrai que toute réflexion sur l'amélioration d'un logement, du point de vue de son chauffage, de son confort, etc., nécessite un bilan préalable extrêmement précis, fait par une personne désintéressée.
Jean-Michel Guérin, qui avait eu la gentillesse de rester avec nous en ligne et d'être patient, vous, comment vous ressentez au niveau de des acheteurs ou des vendeurs de maisons, justement, ces propositions multiples qui leur sont faites? Vous avez du retour là-dessus?
Non, pas tellement, en fait. Effectivement, les gens que l'on a sont très sensibles à leur facture, dans la mesure où, bien évidemment, l'énergie augmente. Visiblement, quand on a des réseaux de gaz de ville, il y a quand même toujours une préférence, parce que le kilowattheure est malgré tout moins cher qu'en matière électrique.
Et alors, je vois des dettes qui font non, là, autour de la table.
Ah, quand on regarde les tarifs, quand même, bon, c'est ce qu'on voit. Et puis, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser sur des solutions nouvelles, type chauffage au granulé de bois, par exemple, ou voir des installations, mais là, qui sont plus chères de
Mais là, si on est en appartement, c'est un peu plus difficile, Jean Bergugnou, non?
Bon, alors, je voudrais revenir quand même sur cette affaire du coût de l'électricité dans le logement. J'ai expliqué tout à l'heure que isoler le chauffage électrique du bilan en termes de coût n'a pas de sens, car en fait c'est un tout. Vous avez l'électricité qui chauffe les logements, qui chauffe l'eau et qui a d'autres usages. Et je mets quiconque au défi, dans la facture qui comporte une partie fixe, le raccordement au réseau, la prime fixe, etc.
L'abonnement.
De séparer de façon irréfutable ce qui revient au chauffage électrique. La seule chose qui compte, c'est que dans une maison bien isolée, globalement, la facture électrique sera moins forte que la somme des factures électricité, gaz, plus les entretiens. Ça, c'est une réalité. Alors, ça m'amène à dire un mot. Méfiez-vous du diagnostic de performance énergétique tel qu'il est affiché. Vous pouvez être sûr qu'un logement électrique, toutes choses égales par ailleurs, sera classé un niveau au-dessous de ce qu'il devrait être.
Très bien, merci Jean Bergugnou. Donc merci Jean-Michel Guérin, directeur de PAP, qui était en ligne, et puis Frédéric Delettre, directeur commercial de chez Sauter, marque bien connue du groupe Atlantique, et puis Claude Descombes, directeur général de l'association Promotelec. On aura compris, il y avait personne pour représenter cela autour de la table, mais on aura compris que l'isolation est quand même toujours
mais on l'évoque souvent.
Mais on va y revenir justement très prochainement.
Christian, on se retrouve samedi prochain entre 8h et 10h sur RMC.